Avoine. Cette semaine, Virginie Bloch-Lainé rencontre Élé Béji. Ce soir, une enfance baignée par la politique.
Bonsoir Élé Béji. Vous êtes une intellectuelle tunisienne, née en 1948 à Tunis. Après avoir passé l'agrégation de lettres modernes à Paris, vous avez enseigné à l'Université de Tunis. Puis, à la faveur d'un bouleversement politique dont nous parlerons cette semaine, vous avez quitté l'université et, plus tard, vous avez fondé un groupe de réflexion, le Collège international de Tunis. Dans votre maison, à Tunis, vous invitiez des intellectuels et, dans la limite des places disponibles, pouvez assister aux conférences qui le souhaitait. L'entrée était libre, il s'agissait de colloques hors les murs de l'université. Les Français Jacques Derrida, Jean Baudrillard, Jean Daniel, entre autres, sont venus. Vous êtes aussi Élé Béji, l'auteur d'essais au ton vif, pamphlétaire, qui ont pour thème la Tunisie après la décolonisation, le port du voile et la montée, voire le triomphe de l'islam politique. Alors avant de vous demander de nous raconter votre enfance, que vous avez passée en partie en Europe, puisque votre père y fut ambassadeur, j'aimerais que vous nous décriviez depuis Paris, où vous passez très régulièrement, quelques mois, que vous nous décriviez votre maison de Tunis, votre médina, afin que les auditeurs puissent se faire une idée de l'environnement dans lequel vous vivez.
Merci, bonjour.
Bonjour.
Merci de m'avoir invitée. Ma maison de Tunis, elle a quelque chose de, pour moi d'abord, de légendaire, de mythique. Bon, j'y suis née, mon père y est né, mes frères, mes cousins, notre tribu y est née, quoi. C'est une maison magnifique dans la médina, et dont j'ai découvert la poésie à l'adolescence, parce que j'y ai passé la petite enfance, la plus petite enfance. Donc je suis née dans une maison où il y avait ma grand-mère, où il y avait beaucoup de femmes, beaucoup, il y avait une sociabilité très particulière, très charnelle. Les rapports, vous savez, dans la famille, en tout cas en Tunisie, sont très, très charnels, très physiques. Il y a une espèce d'affect qui est toujours... En fait, justement, c'est là où c'est intéressant, parce que ces grandes maisons avec de grands patios sont des maisons presque ouvertes, c'est-à-dire elles sont fermées par leurs murailles et la beauté de leur faïence. Donc, vous êtes comme dans un enclos protégé, dans une petite forteresse. Voilà, vous êtes très protégé du bruit, justement, parce que les murs ont un mètre d'épaisseur. Mais peut-être l'originalité de ces maisons, contrairement aux châteaux et aux... Ce ne sont pas des maisons aristocratiques. Ça reste des maisons populaires où les gens rentrent et sortent tout le temps. On est dans la rue et la rue est chez nous. Donc, il y a cette vie du faubourg, parce que la médina est divisée en quartiers. Et nous, c'était le quartier un peu extérieur, le Rbat, ce qu'on appelle le faubourg, juste. Mais c'est tout petit, hein. C'est pas la banlieue. C'est le centre, en fait. C'est un faubourg du centre, quoi. Et donc, ce qui était beau, et j'ai vécu toute ma vie avec l'idée que la famille et la société, c'était une seule et même chose, en fait. Je n'ai jamais, par exemple, eu de repas en tête à tête avec papa, maman. Ça n'existait pas.
Alors, qui venait ?
Tout le monde. Tous les amis de mes parents, tous les amis de ma grand-mère, tous nos amis.
Au déboté ?
Bien sûr, toujours. Oui. Toujours. Les gens rentraient. Le matin, il y a des gens très tôt qui débarquaient à la maison pour venir prendre le café avec mes parents, avec ma grand-mère. Donc, j'ai vécu dans une maison, ce que j'appelle peuplée.
Mais y compris Élé Béji, lorsque votre père, parce que je l'ai dit en introduction, votre père a été ambassadeur en Allemagne, en Italie, et il a été ministre de Bourguiba. Oui, oui. Lorsqu'il était ministre, il y avait aussi cette circulation.
Alors, bien sûr. Mais alors là, on a déménagé. Là, mes parents ont construit une villa, mais moi, je suis restée très attachée à cette maison. Et j'allais travailler, passer mes examens, etc. Toujours, parce que c'est un système de vie qu'on transporte partout avec soi. Et même dans les pays étrangers, à Rome ou en Allemagne, c'était pareil. L'appartement italien était devenu une maison tunisienne, avec un va-et-vient permanent, le peuple des amis de mes parents. Et la maison en Allemagne, c'était pareil. C'était une grande maison avec un immense jardin. Et je n'ai pas de souvenir d'avoir pris un repas seul avec mes parents. De toute ma vie. Pas de toute mon enfance. De toute ma vie. Jusqu'à la disparition de mes parents.
Quel était, les BJ, le milieu, ou les milieux, je ne sais pas s'ils venaient du même milieu, de vos parents, de votre père et de votre mère?
Alors, mon père était issu de la petite bourgeoisie tunisienne, occidentalisée, modernisée, qui avait fait ses études au lycée Carnot. Mon grand-père, lui, était un lettré ancienne manière, c'est-à-dire qui avait fait ses études à la Grande Mosquée. Donc, il ne parlait pas le français, il parlait l'arabe, mais c'est un homme très ouvert, c'est un avocat. Je ne l'ai pas connu.
Comme votre père, qui était avocat
oui,
aussi.
Oui, comme mon père. Mais il a eu l'intelligence, enfin, il a décidé que mon père irait à l'école française et non pas à l'école arabe. Et donc, il avait une espèce d'admiration pour la France, très grande, alors que c'était un fervent nationaliste, c'est-à-dire qu'il a fait partie du premier groupe de résistants qui ont créé ce qu'on appelle le vieux Destour, donc le parti nationaliste premier. C'était le premier noyau dur du parti nationaliste. Donc il était à la fois nationaliste, mais en même temps il aimait la France. Bon, ma mère était française, catholique, de Tunisie, hein, française, catholique, chrétienne donc, profondément anticléricale. Et mon père était aussi profondément anticlérical du côté musulman. La religion était presque un sujet, je ne dis pas de dérision, parce que ce n'est pas vraiment le mot, mais bon, on considérait que c'était des fariboles un peu. Et que donc, bon, on acceptait ça, que ça faisait partie du merveilleux quotidien, mais c'était plus de l'ordre du conte. Hein, voilà. Et donc, je n'ai jamais été élevée dans ni la peur, ni la terreur, ni le châtiment, ni le péché, ni du côté chrétien, ni du côté musulman. Bon, le péché original n'existe pas dans l'islam. Donc, de toute façon, on était innocents. Donc, j'ai vécu dans une atmosphère d'innocence totale qui m'a préservée de toute terreur religieuse et de toute dévotion, de tout. Il n'y avait pas beaucoup de dévots à l'époque, en fait. Maintenant qu'il y a des dévots. Il n'y en avait pas.
Parce que vous étiez à Tunis ou parce que vous étiez protégé par
votre
milieu?
Non, les gens sont très croyants. Non. Autour de nous, les gens étaient très croyants. Ma grand-mère faisait la prière 5 fois. Tout le monde est croyant. C'est ça le problème. Mais c'était de l'ordre d'une piété insouciante. Pas une piété grave. Pas une espèce de piété solennelle comme ça, de rectitude morale. Non, pas du tout. Il y avait une très grande souplesse dans cette piété. La vie musulmane au sens profane du mot, hein, pas au sens culturel, laissons le culte de côté encore que, est extrêmement tournée vers le corps, extrêmement charnelle. C'est-à-dire il y a une sorte de liberté que moi, j'ai toujours ressentie chez moi, qui aujourd'hui est contredite par une forme de puritanisme qu'on n'a jamais connue. Je ne me suis jamais trouvée dans mon enfance ni mon adolescence en face de gens puritains. En tout cas, pas chez moi. Et je pense que c'était une majorité de gens, de citadins, hein, je dirais, d'urbains. C'est cette espèce de vie urbaine, sociale, comme vous avez eu en France, certainement, au 19e et au 18e siècle, où les gens se recevaient énormément, sans façon, où il n'y avait pas cet individu. L'hyper-individualisme n'est que la création du dernier, je sais pas, de la dernière décennie ou du dernier, voilà. L'individualisme est une chose que l'on ne vivait pas. On ne savait pas ce que c'est.
En quels termes, les BJ, entendiez-vous parler de la France? Vous aviez une mère française,
ben oui,
mais vous étiez dans un pays
alors,
colonisé.
Ma mère pouvait dire du mot des Français en disant les Français, comme ça, de manière très méprisante. On m'a mis à l'école française.
Le lycée Carnot.
Et je ne voyais pas en fait la différence entre être tunisien et être français. Il n'y avait aucune de cette espèce de séparation nationaliste. C'est pour ça que je me méfie toujours un peu du nationalisme. Alors que ma famille a été profondément anticolonialiste. C'est-à-dire que mon père s'était engagé auprès même du FLN. Quand il y a eu la guerre d'Algérie, tous les amis algériens du FLN, il y en a même un en Allemagne qui a été tué devant chez nous. Donc, on vivait la guerre coloniale avec beaucoup de, comment dire, de jubilation, presque de, je dis pas de jubilation. C'était à la fois dramatique, mais mes parents ne m'ont jamais transmis le sens tragique de l'histoire. Alors qu'il y avait des tragédies. On a vécu des moments difficiles. Mes parents ont vécu les moments de la guerre, par exemple.
Oui.
Ils me racontaient les bombardements des Allemands. Mon père m'a dit, j'ai jamais connu la peur que quand j'entendais les bombardiers. Il a dit, c'est un homme très courageux qui n'avait peur de rien. Mais là, il disait, on claquait des dents et on tremblait sans pouvoir se retenir. Et en même temps, ils étaient courageux parce que ma mère me racontait qu'un jour, un de leurs amis juifs devait se cacher. Probablement les Allemands, c'était la période, il y a eu une période d'arrestation où on arrêtait tous les juifs en Tunisie, les Allemands quoi. Et ils habitaient à Mamlif, c'est un quartier hors de Tunis, enfin une petite ville à Mamlif, une plage balnéaire. Et ma mère avait caché cet ami juif chez elle, sous le lit. Il s'était caché sous le lit. C'est-à-dire, les Allemands sont rentrés. Et ma mère m'a dit, je vois encore ses yeux écarquillés. Elle me racontait sa peur. Donc les SS, pour elle, c'était le diable, quoi. Ils sont rentrés, ils ont fouillé toute la maison. Tout. Ils n'ont pas regardé sous le lit. Elle disait que c'était un miracle. Parce que c'est la première chose qu'on regarde, c'est sous un lit quand on cherche. Et elle dit, voilà ma fille, tu vois, s'ils avaient regardé sous le lit, tu n'existerais pas. Et après, elle m'a dit, j'ai plus jamais eu de nouvelles de cet ami juif. Qu'est-ce qu'il est devenu jusqu'à maintenant, on ne le sait plus. On ne sait pas.
À quel moment, Elie Béji, avez-vous habité avec vos parents en Allemagne? Quand votre père fut-il ambassadeur en Allemagne?
Alors, quand il y a eu l'indépendance, dès l'indépendance, mon père a été nommé ambassadeur à Rome d'abord. Donc j'ai appris l'italien. C'est pour ça toujours, alors je reviens à cette idée du nationalisme. Comme j'ai été élevée de manière cosmopolite, mais il y avait des juifs, des arabes, des chrétiens, des athées, de tout il y avait à la maison. Des gens qui buvaient du vin, des gens qui mangeaient du cochon, d'autres pas, comme ma grand-mère. Et tout ça ne posait aucun problème. C'est-à-dire, il y avait une sorte de c'était au-delà de la tolérance. C'est pas que non, t'es différent, je te tolère. Non, c'est parce que ça, c'est déjà le début de l'intolérance.
Une évidence ou une indifférence.
Ça n'existait pas. C'est-à-dire, ça n'existait pas. C'est comme je raconte dans Dommage Tunisie, quand les Juifs sont partis, j'avais une amie juive particulière avec qui j'étais tout le temps, vous savez, la meilleure amie quand on est petit, enfin on avait 12, 13 ans, 14 ans. Et un jour, la famille est partie. Et leurs parents étaient très amis avec mes parents. Mais ils sont partis du jour au lendemain. Et donc je ne comprenais pas, je n'avais pas compris. Bon, il y avait eu l'histoire d'Israël, bon j'entendais, mais je ne comprenais pas et je me disais, mais c'est pas possible, il y a dû avoir quelque chose, ils vont revenir. Ils sont jamais revenus. Et c'est resté une peine terrible, ça. Et ça, je la décris dans le livre comme étant le départ des Juifs, comme étant la perte de cette saveur de l'existence qui faisait que tout le monde vivait ensemble. On a perdu quelque chose du bonheur.
Et ça a été commenté, le départ des Juifs de Tunisie France a été, oui, dans après, votre famille.
Oui. Bah après, c'est devenu le grand problème. Israël, maintenant, les Tunisiens sont extrêmement engagés pour la Palestine, etc. Bourguiba avait fait un grand discours à Jéricho. À l'époque, mon père était présent et il m'a dit « je pensais qu'on allait le tuer ». Parce qu'il a dit, donc il a reconnu Israël, il a dit aux Arabes, faites pas, c'est idiot, il faut accepter ce partage. Il a compris l'histoire, il avait ce génie, il a compris l'histoire. Et mon père a dit, j'étais à côté de lui, je tremblais, j'ai dit, ils vont nous tuer quoi. Et bon, ils l'ont pas tué, mais ça avait fait à l'époque, il y avait eu toute une propagande anti-bourguibienne, qui avait trahi la cause arabe. Enfin, il était considéré comme ça, comme un hérétique, hein, par rapport au nationalisme arabe.
En quels termes votre père vous parlait-il de Bourguiba lorsqu'il était son ministre et lorsqu'il l'accompagnait?
On parlait d'abord, et il faut vous dire, la liberté de parole était totale. Là, aujourd'hui, on cherche la liberté d'expression. Nous, on a vécu, on disait tout. Et puis, on avait ce côté un peu moqueur. Mon père était taquin et moqueur. Donc, il se moquait de moi, il se moquait de sa femme, il se moquait de ses enfants, il se moquait de lui-même. Donc, on a vécu avec toujours cette distance, cet humour de la moquerie affective. Vous savez ce que disait Victor Hugo? Il disait, la taquinerie, c'est une très belle phrase, je trouve, je l'ai retenue, je ne retiens pas souvent les citations. La taquinerie, c'est la méchanceté des bons. Donc, nous, on vécait dans cette taquinerie des bons. Voilà. C'était pas de la méchanceté, c'était pas cette espèce de sarcasme, d'ironie amère qu'il y a maintenant. Voilà, non, c'était de la bonté qui s'exprimait, c'était de l'affection. Et donc, on disait, Bourguiba est un génie. Bon. Mais, on en parlait ouvertement, c'est un tyran. C'est un despote. Voilà, on considérait, et on n'aimait pas trop les despotes dans la famille. Même si on savait qu'il était dans le cours de l'histoire, qu'il avait raison. Qu'il avait mis les Français dehors sans coup férir, pratiquement sans guerre civile, c'était un grand pacifique pour Guiba. Il avait l'intelligence des conflits et il avait l'intelligence de dire « Je négocie à quoi bon détruire ? Je négocie tant que je peux. » Avant de décider de passer à la guerre et de sacrifier des vies. Et ça, c'était vraiment assez exceptionnel. Donc, on n'a pas eu de guerre d'Algérie. Donc, c'est pour ça qu'on est aussi un peu différents. On a soutenu la guerre d'Algérie, mais on l'a pas faite chez nous. Et donc, il y avait dans ma famille, on faisait que de la politique. C'est-à-dire, depuis que je suis née, on discutait tous les débats que vous avez aujourd'hui à la télévision sur tel ou tel ministre. Il n'y avait pas de télévision, mais c'était chez nous. Celui-là est idiot, celui-là est intelligent, celui-là a bien fait, celui-là a mal fait, celui-là ne connaît rien, celui-là est cultivé, celui-là est inculte. Donc, on avait en permanence une sorte de journal télévisé à la maison, en permanence, avec mes parents, avec leurs goûts, leurs antipathies. Mais en même temps, on n'avait pas d'ennemis. Les seuls ennemis, c'était les ennemis de l'ombre.
Et c'était qui ?
C'était les religieux, c'était les islamistes déjà. Ils existaient. Donc ceux-là, c'était les ennemis cachés. C'est ça le problème. Mais on le sentait pas, on le savait pas, puisque de toute façon, le régime était un régime despotique. Donc toute manifestation qui n'était pas laïque, nationaliste, laïque, était réprimée. La Tunisie était un état civil, le peuple était croyant, pratiquant, mais l'État devait être neutre et laïque. On a été élevés sur ça, quoi. À l'État républicain, exactement comme des petits Français. Moi, j'étais élevée comme petite Française. Dans l'imaginaire du pouvoir, dans la doxa du pouvoir, c'était vraiment ça. C'était la vérité, c'était ça. Et les religieux n'avaient pas droit de parler en dehors de la mosquée, de faire les prières, de prêcher la bonne parole, comme les prêtres en France. C'est-à-dire, ils prêchaient les consciences, ils débarrassaient les gens de leurs fautes, ils expliquaient la bonne voie et la mauvaise voie, la voie droite. Mais jamais ils se mêlaient de politique. Et on a été élevés dans cette séparation totale donc du religieux et du politique au niveau de l'État. Mais ce dont on ne s'est pas rendu compte, et c'est ça que je décris après, que j'ai découvert avec l'âge, avec les lectures et avec les tragédies d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, on peut séparer le politique du religieux très facilement. Il n'y a aucun problème.
Enfin, très facilement, à condition d'être un tyran.
Oui. Oui. À condition d'avoir un. Oui, bah oui. oui. Mais la France aussi est passée par là. C'est ça le problème. Et vous voyez, avant d'imposer un État laïque, il y en a eu des guerres. Il y en a eu des destructions. Il y en a eu des guerres religieuses. Diderot était emprisonné. Il ne faut pas oublier. Voltaire écrivait sous le manteau. Il écrivait ses lettres philosophiques. Il disait c'est pas moi qui les ai écrites. Il avait un faux nom, etc. Rousseau s'est enfui à Genève. Enfin, mille exemples de persécution intellectuelle. Donc, oui, bien sûr. Parce que c'était l'État qui se construisait, un État centralisateur. Je le justifie pas, hein. Je raconte l'histoire. Mais ce qu'on n'avait pas vu et ce que je découvre moi et que maintenant je défends de plus en plus, c'est qu'on ne peut pas séparer la religion de la société. C'est-à-dire que dans la société, vous ne pouvez pas, dans une société pieuse en tout cas, comme la société, une société conservatrice de mœurs et pieuse, vous ne pouvez pas séparer la religion de la société. Elle se manifeste de toutes les manières possibles. Alors elle peut se manifester de manière très poétique, très belle, avec tout un merveilleux qui l'accompagne, comme c'était chez moi, parce qu'il y avait les fêtes religieuses, c'était comme vous, comme Noël. Donc il y avait ce merveilleux aussi chez nous, vous voyez ? Donc ça, c'est déjà ce que j'appelle une religion sécularisée, en quelque sorte. Mais je pense qu'il faut faire la différence entre la religion et la tradition. C'est ça le grand. Et on ne peut pas séparer, même dans justement, quand on s'éloigne beaucoup de la tradition, quand on rompt, et quand on veut créer un homme auto-centré, un individu qui s'auto-génère lui-même, je n'y crois pas, cette autonomie-là. On vient de quelque part, il y a une généalogie. Donc, c'est cette généalogie, c'est cette tradition qui vous donne le désir de création, en fait. En fait, le goût de créer vient de tout ce qu'on a appris. Et donc, tout ce qu'on a appris nous permet, sur ce socle solide, de créer du neuf. Vous ne pouvez pas créer du neuf à partir du degré zéro de l'histoire. Il faut que vous ayez ce bagage. Et ce bagage-là, vous ne pouvez pas l'effacer non plus, même si vous n'êtes pas croyant, comme moi. Voyez ? Et d'ailleurs, la question ne se pose même pas, parce que si vous me posez la question, je répondrai, mais ça regarde qui qu'on soit croyant ou pas, ça regarde personne en fait. Donc ça, c'est le privé, l'intime, vraiment. Donc, je pense qu'on peut très bien aimer la tradition, comme moi, tout en n'étant pas croyant. Mais parce que j'en ai reçu le meilleur. Voilà. J'en ai reçu le goût des autres. Par exemple, j'en ai reçu la déférence à l'égard des anciens, des vieux. J'en ai reçu la civilité. La civilité est une chose qui n'est pas de l'ordre du juridique. Maintenant,
Il peut y avoir une forme laïque de la civilité. Enfin,
mais c'est civil. Oui. Mais ça, oui. C'est de la civilité.
Oui.
La tradition, elle est civile. Elle n'est pas religieuse.
Oui.
Mais elle sort probablement du corpus religieux, quelque part, des usages. Elle n'est pas du tout religieuse, la tradition. C'est quand vous dites Noël. Bon, Noël, c'est quoi? C'est les cadeaux, c'est moi. Non, on fait Noël, nous, avec les enfants, les petits-enfants, etc. Mais au départ, c'est quand même la nativité, c'est quand même la naissance. Donc, il y avait... Mais maintenant, c'est devenu presque une fête païenne, laïque, voilà. C'est un autre merveilleux. Donc, on a ces traditions merveilleuses.
Il y a une particularité dont nous n'avons pas parlé, les BJ, c'est que la sœur de votre père a été l'épouse de Bourguiba.
Oui, alors ça, c'est très intéressant aussi, parce que c'était une femme... Enfin, c'était une femme exceptionnelle. C'était une femme exceptionnelle, d'une intelligence qui n'a pas fait beaucoup d'école, mais son père l'adorait. Son père l'adorait, il avait une préférence pour sa fille. Et chez nous, souvent, les pères adorent. J'ai fait l'objet de la même adoration de la part de mon père. Donc, très choyé, très élevé comme des grandes personnes. Voilà. À la fois des petites filles sur le plan affectif, mais comme des personnes libres. J'ai été élevée comme une petite fille libre. Et ma tante aussi, ce qui est plus curieux, parce que c'était bien avant. Et son père, qui était donc de la Zitouna, qui a eu sa formation à la Zitouna, c'est-à-dire à la grande mosquée, a dévoilé sa fille à sa demande, très, très jeune. Il lui a fait porter des pantalons, des bérets, des tenues modernes, des tenues de golf. L'a emmenée en Europe et lui a coupé les cheveux parce qu'elle voulait se couper les cheveux, c'était la mode. Les femmes ne se coupaient pas les cheveux. Donc tout ça, c'était dans les années 30. Donc, vous voyez la modernité, comment elle passe. C'était sans conflit. Et donc mon grand-père était même plus ouvert que ma grand-mère. Parce que les femmes, souvent, sont plus conservatrices que dans ces sociétés-là. C'est souvent les femmes. C'est pas, on dit, la domination masculine. C'est pas tout à fait vrai. C'est souvent la mère ou la grand-mère qui maintient sa fille dans le moule, quoi. Et c'était une femme étonnamment libre, donc qui a rencontré Bourguiba par hasard, parce qu'une cousine à nous était une cousine de Bourguiba. Lui, il a eu le coup de foudre, c'est une histoire extraordinaire, c'est un roman. Dès qu'il l'a vue, elle raconte, elle dit, tu sais, moi j'étais avec une robe de chambre, avec une corde. Elle me disait, j'avais une corde autour de la taille, et j'étais en robe de chambre, et lui, il a eu le coup de foudre. Et il n'a eu de cesse, parce que c'est Bourguiba, que de l'obtenir. Donc, il l'a fait divorcer.
Ah, elle était mariée ?
Elle était mariée. Donc, avant de se divorcer, elle a vécu, dans le péché.
Oui.
D'accord ? Donc, elle le voyait ouvertement, c'était pas en cachette. Sa mère n'était pas contente. Mon père, bon, est un homme très libéral, il disait, ma sœur, bon, mais...
Elle avait des enfants ?
Elle avait une fille avec son premier mari, j'aimais beaucoup mon oncle. J'aimais beaucoup le premier mari de ma tante. Mais la volonté et la force de Bourguiba et l'autoritarisme a été plus fort que tout. Il l'a fait divorcer, il a été très malin, il l'a posé par étapes. En lui disant, elle dit, bon, je divorce, mais je ne me marie plus, moi. Moi, je ne me marie plus. Donc, elle avait cette espèce d'idéologie un peu moderniste, anti-mariage, qu'elle nous a transmis, d'ailleurs. Et elle a réussi à divorcer. Et ce qui est extraordinaire, et c'est ça, c'est là où la différence entre la femme d'aujourd'hui et la femme d'hier. La femme d'hier que je décris dans Une force qui demeure. Parce que là, je décris justement la force de la tradition. Elle est restée avec son mari comme une mère. C'est-à-dire qu'elle allait lui faire la cuisine, qu'elle allait s'occuper de lui.
Avec son premier mari ?
Oui, avec son premier mari. Elle est restée, elle l'a jamais abandonné.
Elle l'a pas abandonné.
Non, il n'y avait pas cette haine et cette rupture, ce ressentiment vis-à-vis de l'homme. Elle l'a quitté, mais elle allait chez lui, elle usait les rideaux, elle le logeait, elle le meublait, elle lui trouvait la personne qui lui faisait la cuisine. C'est-à-dire, c'était elle s'occupait moins de Bourguiba que de lui. Vous voyez ? Donc même quand elle était au palais, tous les jours, d'abord elle venait pratiquement tous les, pas tous les jours, mais presque tout le temps chez sa mère, puis chez son mari, et elle a continué, c'est le père de sa fille, elle a continué à s'occuper de lui comme si c'était son enfant. Elle était très maternelle. C'est extraordinaire.
Et vous pensez qu'elle a été heureuse avec Bourguiba ?
Je ne crois pas.
Et elle a dit avoir, elle, est-ce qu'elle a dit regretter le divorce ?
Non. Non. Elle n'a jamais regretté le divorce. Jamais elle a regretté de quitter son mari. Elle voulait être libre. C'est une femme entrepreneur déjà. Elle avait une propriété, la propriété de son mari. Elle a continué à travailler la propriété de son mari alors qu'elle était divorcée. Je ne crois pas qu'elle ait été heureuse, non. Mais par contre, elle savait au fond d'elle-même que Bourguiba était un être hors du commun et qui lui faisait vivre sur le plan intellectuel et politique des choses que peut-être elle n'aurait pas maîtrisées aussi bien. Bien qu'elle m'a raconté que son père lui avait donné une éducation politique déjà. Son père donc a fondé le parti nationaliste parce que le père, donc mon grand-père, faisait partie du vieux Destour et Bourguiba a fondé le néo-Destour en 1934. Donc le vieux Destour, les gens venaient chez nous. Donc c'est pour ça que cette maison est un peu légendaire. Les gens venaient chez nous et étaient dans une espèce de pièce qui est attenante à l'entrée. Il y a comme ça une disposition particulière des maisons arabes, comme ça, sans couloir. Hein, où vous entrez, vous avez une espèce de la srif, à ce qu'on appelle, c'est-à-dire l'entrée. Et à côté, il y avait une pièce, et on l'appelait bit srif, à la chambre de l'entrée. Et c'est là qu'ils recevaient ses militants, ses amis militants, ils se retrouvaient. Et ils disaient à ma tante, reste derrière la porte et écoute et apprends. Donc elle restait, elle a été petite, elle avait 13 ans, 14 ans, je ne sais plus quel âge, 15 ans, et lui disait écoute et apprends la politique.
Merci Elie Béji, on se retrouve demain soir et vous nous parlerez de vos études à Paris.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Virginie Bloch-Léné avec Elie Béji. À voix nue, réalisation Angélique Thibault, prise de son Frédéric Quérou, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue, se réécouter ce podcast sur franceculture.fr et l'appli Radio France.